bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, forum de Bamako sur la jeunesse et la paix. Une cinquantaine de jeunes venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire se sont réunis pour échanger et explorer les opportunités qui s'offrent à eux, définissant les priorités pour les jeunes de ces pays. Le conflit meurtrier au Soudan, déjà marqué par des massacres et des violences sexuelles de masse, pourrait encore s'aggraver, alerte l'ONU. Dans notre fait marquant de la semaine, nous visitons le Sénégal où le pouvoir est attendu au tournant après un raz-de-marée électoral annoncé. Le maraîchage féminin à Bandiagara, un pilier d'indépendance économique et d'éducation. Dans le reportage de Tidiani, nous découvrirons comment l'agriculture maraîchère joue un rôle central dans l'émancipation économique des femmes. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. La cinquième édition du Forum régional de la jeunesse organisé par le Gore Institute s'est déroulé à Bamako, dans les locaux de l'école de maintien de la paix, à Lioune Blondin Bay. Cette rencontre avait pour thème principal rôle et engagement des jeunes dans la gouvernance, la citoyenneté et la paix au Sahel. Ce forum a également mis en lumière le rôle crucial de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'est un reportage de Mohamed Danyoko.
Ils sont une cinquantaine de jeunes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire à partager leur expérience et à s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres lors de cette cinquième édition du Forum régional des jeunes organisé par Gore Institute.
Une occasion de partager ce que nous faisons dans nos pays respectifs, de partager les expériences, de nous donner des idées afin que nous continuions à améliorer nos activités associatives, nos activités dans les partis politiques et pour solutionner les crises multiformes qui sévissent dans nos pays.
Fer de lance des changements de régime intervenus ces dernières années au Sahel, il s'agit pour les jeunes, passé le moment de la contestation, de revendiquer une implication plus active dans le processus décisionnel des différentes autorités de transition.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir aller au-delà de la contestation. Nous avions eu à contester un temps, nous avons abouti à un changement. Maintenant, c'est de voir comment est-ce que cette jeunesse peut être mobilisée pour qu'elle puisse également contribuer de manière active à ce changement pour qu'elle puisse se retrouver dans l'architecture qui est en train de se faire.
Pour Mokhtar Sy, panéliste et coordinateur de Génération Engagée, l'implication des jeunes au-delà d'une demande est une nécessité pour les autorités de transition.
Donc aujourd'hui, ce cadre sert à créer un échange entre les jeunes gouvernés et les gouvernants pour discuter des défis, des opportunités et définir les priorités. Maintenant, ce cadre sert à définir ces priorités-là pour les jeunes de ces trois pays qui sont confrontés à d'énormes difficultés.
Il s'agit aussi pour Gore Institute, organisateur de ce forum, d'entretenir les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel.
Il y a beaucoup d'aspects qui doivent être pris en compte pour un peu augmenter l'implication des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Non seulement ils sont auteurs, je l'ai dit tantôt, ils sont aussi victimes. Maintenant, il va falloir maintenant que les États mettent en place des politiques qui permettent de prendre en charge maintenant la question de la jeunesse. Il ne suffit pas d'avoir du tout militaire pour lutter contre l'extrémisme violent. Les questions liées au développement, les questions liées à l'employabilité des jeunes, les questions liées un peu à la pauvreté sont des questions primordiales pour prendre en compte ces aspects-là.
Des recommandations fortes seront issues de ce forum afin d'inviter les autorités des pays du Sahel à faire de l'implication des jeunes une priorité. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Mohamed Danyoko est avec nous en ligne. Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Quelles sont les initiatives les plus marquantes ou innovantes qui ont été partagées par les jeunes participants et comment pourraient-elles être adaptées ou reproduites dans d'autres contextes au Sahel? Mohamed, nous avons un problème de connexion téléphonique avec...
Pratiquement les mêmes réalités.
Oui, alors, oui Mohamed, alors, allez-y, oui. Allez-y, je vous écoute. Bon? Oui. Je vous écoute.
Ouais, donc, je disais que c'est les jeunes de l'espace Sahel qui ont pratiquement les mêmes réalités. Et il y avait beaucoup d'organisations de jeunes, beaucoup d'organisations de la société civile. Et chaque organisation a partagé son expérience en termes d'action sur le terrain.
Quelles sont les initiatives partagées? Quelles sont les initiatives partagées?
Oui, il y a des jeunes qui ont dit carrément que dans leur pays, eux, aujourd'hui, ils sont en train de se mettre en place parce que c'est les jeunes qui ont eu à contester. Ils ont partagé des initiatives qui visent aujourd'hui à faire en sorte que, à côté des autorités, ils puissent proposer des solutions. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être entendus. Et donc, les astuces, les trucs qu'ils ont mis en place, ils ont partagé cela avec les autres jeunes venus d'autres pays.
Quels sont les principaux types de crises auxquelles les jeunes des différents pays représentés sont confrontés et quels exemples de solutions concrètes ont été discutées pour les surmonter?
Dans un premier temps, c'est l'extrémisme violent. Ils sont venus du Mali, du Burkina et du Niger. Donc, qui parle de ces pays parle du terrorisme, de l'extrémisme violent. Et forcément, c'est ça l'enjeu majeur. Et ces jeunes-là, il y avait des jeunes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui n'ont pas les mêmes réalités certes, mais qui sont dans le même espace et qui ont aussi envie de savoir et de, comment on appelle, de se préparer en conséquence. Et aujourd'hui, c'est des jeunes qui carrément mettent en place des astuces et des initiatives pour essayer de lutter contre l'extrémisme violent et au-delà. Être impliqué dans la gestion, parce qu'il faut noter que l'idée, c'est qu'ils veulent aller au-delà de la contestation, parce que les changements de régime, ce sont les jeunes qui sont à la base, mais aujourd'hui, au constat, ils se rendent compte qu'ils sont délaissés par les autorités.
Alors, quels défis spécifiques à la gouvernance ont été mis en avant par les participants et quelles priorités ont été définies pour que les jeunes jouent un rôle actif dans les processus de transition?
Justement, c'est tout le sens de ce forum organisé par Boré Institute, parce que Boré, en mettant en place ce forum sous-régional, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient des acteurs. Ils doivent être des coproducteurs et des co-superviseurs des politiques publiques qui ne peuvent plus être laissés en marge quand on sait que plus de 75% de la jeunesse, n'est-ce pas, notamment au Sahel, et de la population au Sahel, sont des jeunes. Aujourd'hui, c'est une force de proposition, c'est une force active qui doit être mise. Et aujourd'hui, il s'agit aujourd'hui de ce forum-là de faire en sorte d'outiller ces jeunes-là pour qu'au retour de leur pays, ils puissent mettre en place des initiatives pour que les autorités puissent en tout cas faire recours à eux, pour qu'ils soient à leur côté et proposer après avoir contribué à leur avènement.
Merci beaucoup Mohamed Danioko. Je signale que vous êtes notre correspondant à Bamako. Merci pour toutes ces clarifications. Sur Facebook, nous vous proposons le commentaire de Di Kulolo. Il parle d'abord des défis, le chômage des jeunes, la famine qui touche de nombreuses communautés, la consommation de tabac et d'autres substances nuisibles à la mémoire et à la santé. Comme solution, il propose la sensibilisation pour dissuader les jeunes de consommer de la drogue, investir dans l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et créer des opportunités de travail, mettre en place des centres de formation professionnelle. Nous approfondissons la discussion avec Seydik Abba. Il est journaliste, écrivain et président du Centre international d'études et de relations sur le Sahel. Seydik, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous vos auditeurs.
Alors Seydik, quelle pertinence ce forum peut-il avoir dans un contexte sécuritaire difficile et où les libertés publiques sont souvent restreintes dans les pays du Sahel? Et comment garantir que ces recommandations soient réellement mises en œuvre?
Non, il est important que, quel que soit le contexte, qu'un forum comme celui-là se tienne. Parce que au Sahel, les jeunes sont à la fois le problème et une partie de la solution. Ils sont le problème parce que du fait de la faiblesse du développement et de la gouvernance, ce sont les jeunes qui sont les cibles principales des groupes djihadistes. Et la plupart des groupes djihadistes recrutent des jeunes entre 24 et 32 ans. Et ces jeunes-là sont malheureusement ceux qui n'ont pas le plus d'emplois. Compte tenu du contexte économique, la plupart des États, les fonctions publiques ne peuvent pas recruter. Et le secteur privé ne peut pas recruter ces jeunes. Donc la plupart se retrouvent au chômage et deviennent des cibles privilégiées pour les groupes djihadistes. Donc il est important qu'ils participent à la réflexion sur la solution aux défis sécuritaires et terroristes au Sahel. Maintenant, pour s'assurer que ce qui a été discuté va être mis en place, j'imagine qu'on a mis en place un mécanisme de suivi qui permet que ce ne soit pas simplement des propositions à l'air. Un mécanisme de suivi permet de faire le monitoring de tout ce qui a été décidé et permet de faire la mise en œuvre. Chaque délégation qui retourne dans son pays doit rendre compte aux autorités et doit définir un mécanisme de suivi qui permet de faire le monitoring et éviter que Bamako soit simplement un forum de plus pour la jeunesse de la sous-région.
Quel rôle des dirigeants des pays du Sahel peuvent-ils jouer pour traduire en actions concrètes des propositions issues de ce forum tout en créant un environnement propice à l'engagement citoyen des jeunes?
Non, je pense qu'il est absolument indispensable que les autorités prêtent une oreille attentive à ce que ces jeunes-là ont dit et à ce que la jeunesse est en train de dire dans leur pays. Par le passé, malheureusement, le paradoxe africain et le paradoxe de cette sous-région, c'est que alors que la population est dominée par la jeunesse, ce sont les aînés, les plus âgés, qui font de la politique souvent sans associer les jeunes, sans leur donner la place qu'ils méritent. Et aujourd'hui, je pense que les autorités sont interpellées pour qu'il y ait un changement de paradigme, que les jeunes soient associés dans la définition du projet de société, dans la définition de sa mise en œuvre. On sait que la plupart des pays de la sous-région ont aujourd'hui un ministère de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais au-delà de l'affichage administratif, de l'affichage officiel, il s'agit d'une meilleure implication de la jeunesse dans la conception du projet de société, dans sa mise en œuvre. Et pour moi, le cadre d'exception aujourd'hui, ce type de régime où les partis politiques sont presque un peu marginalisés, permet d'associer davantage la jeunesse puisqu'il n'y a plus de compétition entre les jeunes et les partis politiques. Ça donne une opportunité pour une meilleure implication, une plus grande implication de la jeunesse dans la définition du projet, dans sa mise en œuvre, dans son monitoring.
C'est dit qu'il y a un rapport récent indiquant que la jeunesse africaine reste attachée à la démocratie et cite l'exemple sénégalais. Comment la jeunesse sahélienne peut-elle surmonter les défis posés par la manipulation idéologique, le populisme et les fausses informations sur les réseaux sociaux pour contribuer efficacement à la gouvernance, à la paix et à la lutte contre l'extrémisme violent?
Oui, c'est ça, absolument. Vous avez bien fait de le rappeler. Beaucoup de gens pensent que puisque la jeunesse est sortie pour applaudir souvent les renversements des régimes, c'est qu'elle est attachée au régime d'exception. Il n'en est rien. Dans ce soutien souvent aux régimes qui ont pris le pouvoir, il y a aussi la déception envers la gouvernance des partis politiques, la façon dont les partis ont conduit les affaires publiques, puisque dans la plupart des pays où il y a eu des coups d'État, la politique a servi à enrichir des élites politiques et du coup les jeunes sont sortis pour applaudir cela. Mais on a documenté que les jeunes sont très attachés à la liberté d'expression, à la liberté publique, aux réunions publiques et à toutes les libertés. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, à mon avis, renforcer l'éducation citoyenne des gens, l'éducation aux médias, l'éducation à l'usage des médias. Tout ce qui est dit sur Facebook, tout ce qui est dit sur WhatsApp, tout ce qui est dit sur Twitter n'est pas forcément vrai. Et il faut un travail d'éducation de la jeunesse. L'école peut être le cadre de ce travail. Ensuite, la cellule familiale peut être le cadre de ce travail pour que les gens soient sensibilisés, que la jeunesse soit sensibilisée, et qu'elle évite de reproduire simplement ou qu'elle évite d'adhérer à tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Si on fait ce travail d'éducation de jeunes à l'usage de nouvelles technologies, qui est un formidable outil, il faut faire ce travail-là parce que dans l'avenir, au-delà des réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle à laquelle l'Afrique doit participer, à laquelle la jeunesse sahélienne doit participer. Il faut faire ce travail-là. Il faut engager une stratégie. Malheureusement, aujourd'hui, face à tous ces défis-là, nous n'avons pas de stratégie d'État et il faut des stratégies d'État orientées vers la jeunesse, avec l'école qu'on centre, avec des centres de formation. Et ainsi, on pourrait mettre les jeunes, on pourrait les former. Il faut que les jeunes aient une certaine maturité qui leur permet de distinguer le vrai du faux. Si on n'arrive pas à ça, ils vont être vulnérables à des idéologies et ils vont être vulnérables à la manipulation qui, malheureusement, ne sert pas leur intérêt et ne sert pas l'intérêt de leur pays.
C'est dit que vous parlez d'éducation à travers les médias. On sait que la source est fiable, donc les médias traditionnels sont malmenés. La liberté d'expression connaît beaucoup de difficultés. Comment faire alors qu'il y a ce problème qui est réel et que les médias qui sont sur place ne peuvent pas travailler librement.
Non, je pense qu'il faut que les pays comprennent qu'on a besoin de médias libres. Le développement ne peut pas se faire aujourd'hui au Sahel. Ceux qui ne veulent pas de critiques et ceux qui ne veulent pas de voix discordantes pensent que la solution est purement militaire et sécuritaire au Sahel. Or, il n'en est rien. C'est à travers le débat démocratique, c'est à travers le débat contradictoire qu'on pourrait avoir une solution globale qui n'est pas que sécuritaire et militaire. Et pour cela, il faut qu'il y ait des médias libres, il faut qu'on en revienne. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard de voir qu'on se trompe en pensant que en bridant la liberté de la presse, en malmenant les médias traditionnels ou en malmenant les journalistes, on peut apporter de la sécurité. L'expérience montre que depuis qu'on le fait, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Donc, il faut un changement de paradigme qui garantisse la liberté d'expression, la liberté des médias, les débats contradictoires, l'élargissement du champ politique et que l'espace citoyen puisse être renforcé au lieu de faire de la répression contre les journalistes, contre les médias traditionnels. Ça ne va pas servir à relever le défi sécuritaire. Et je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour rectifier le tir.
Donc, pour vous, la pensée unique n'est pas une solution viable
et durable. Absolument, elle est contre-productive. La pensée unique, on a vu jusqu'ici, l'expérience a montré que la pensée unique, l'absence du débat contradictoire, conduit à des impasses. Et au Sahel, nous n'avons pas besoin d'impasses. La crise a trop duré et nous voulons en sortir. Et pour en sortir, il faut des débats contradictoires, il faut des points de vue différents et cela doit être garanti, sinon nous allons le regretter plus tard.
Merci beaucoup, Sédic Abba. Je signale que vous êtes journaliste, écrivain et président du Centre international d'études et de relations sur le Sahel. Merci beaucoup pour votre perspective.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation, les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Le Soudan est plongé dans un conflit de plus en plus meurtrier où massacres et violences sexuelles sont multipliées. L'ONU a exprimé son inquiétude face à l'escalade de cette crise, soulignant que les deux généraux rivaux semblent fermement convaincus de pouvoir s'imposer militairement. Dans ce reportage, nous allons faire le point sur cette situation tragique et les inquiétudes qu'elle suscite sur le terrain. Les explications avec Michel Claire-Joseph.
Après plus de 18 mois de conflit acharné entre l'armée soudanaise menée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, dirigés par son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, aucun signe d'accalmie n'est en vue, a déclaré Ramesh Rajasingam, directeur de la coordination du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité.
Il n'y a aucun signe de répit. En effet, des prévisions troublantes suggèrent en effet que le conflit est prêt à une nouvelle escalade. Nous continuons de recevoir des informations sur des atrocités choquantes, le plus récemment au sujet de massacres et de violences sexuelles horribles dans l'état d'Al Jazeera. Et c'est devenu une empreinte écœurante de ce conflit.
La sous-secrétaire générale de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a indiqué que malgré la fin imminente de la saison des pluies, les partis poursuivent l'intensification de leurs opérations militaires, le recrutement de nouveaux combattants et l'escalade de leurs attaques.
Alors que la fin de la saison des pluies approche, les partis continuent d'accentuer leurs opérations militaires, de recruter de nouveaux combattants et d'intensifier leurs attaques. Cela est possible grâce à un soutien extérieur considérable, y compris un flot d'armes arrivant dans le pays. En clair, certains prétendus alliés des partis permettent cette tuerie au Soudan.
L'ONU a également exprimé son inquiétude face aux récentes attaques meurtrières contre des civils dans l'État d'Al Jazeera, situé au centre du pays. Les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité de ces violences. Ramesh Rajasingam, directeur de la coordination du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA, a pris la parole à ce sujet.
Nous sommes profondément préoccupés par la trajectoire alarmante de ce conflit. Alors qu'il a déjà déchaîné des souffrances terribles, les conditions sont réunies pour qu'il provoque encore plus de morts de façon exceptionnelle.
Le Soudan a déposé une plainte auprès de l'Union africaine contre le Tchad, l'accusant de fournir des armes et des munitions aux paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, qui sont en conflit avec l'armée régulière. De son côté, Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale de l'ONU aux affaires politiques, a exprimé sa préoccupation concernant l'afflux d'armement dans le pays et a pointé du doigt les soi-disant alliés des partis qui, selon elle, facilitent cette violence. Elle a souligné que l'armée et les FSR croient pouvoir l'emporter sur le terrain, mais a insisté sur le fait qu'une solution politique négociée reste la seule issue viable.
Il est grand temps que les parties en conflit s'assoient à la table des négociations. La seule issue à ce conflit est une solution politique négociée. Cependant, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide semblent persuadées de pouvoir l'emporter sur le champ de bataille.
Outre les violences qui ont déjà causé des milliers de morts, la faim, la malnutrition et les maladies mettent en péril la vie de centaines de milliers de personnes supplémentaires, a également averti l'ONU. Le conflit, qui a engendré des souffrances terribles, pourrait causer encore plus de décès de manière exponentielle, les conditions s'y prêtant. Bien que le poste frontalier d'Adré entre le Tchad et le Soudan ait rouvert en août, facilitant le passage de plus de 300 camions d'aide pour 1,3 million de personnes, l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones de conflit reste insuffisant et certaines zones sont totalement inaccessibles, a souligné l'OCHA.
Le parti au pouvoir au Sénégal se dirige vers une majorité écrasante au Parlement et les Sénégalais attendent à présent que le président et le premier ministre s'en servent pour soulager leur quotidien et appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale qui les a propulsés au pouvoir il y a 8 mois. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International Sénégal. Gassama, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, que signifie cette majorité parlementaire pour l'équilibre politique au Sénégal, notamment en termes de gouvernance et de dialogue avec l'opposition?
Oui, je pense que cette majorité va permettre au nouveau régime, qui est là depuis seulement 7 mois, de pouvoir procéder aux réformes qu'elle a promises aux Sénégalais et de pouvoir également impulser les politiques économiques qu'elle a promis de mettre en œuvre. Nous savons que jusqu'ici, le Premier ministre n'a pas fait une déclaration de politique générale. Jusqu'ici également, le budget de l'année 2025, qui habituellement était adopté depuis début octobre, n'est pas encore soumis au Parlement. Donc, c'est un Parlement qui va avoir un agenda de voter les lois pour transformer le pays et surtout accorder, comme l'a promis le faire en sorte qu'évidemment il y ait une souveraineté économique du pays. On a besoin des lois qui accordent la priorité, en tout cas, aux hommes d'affaires nationaux, ce qui concerne les marchés publics.
Oui, quel message les électeurs ont-ils voulu transmettre à travers ce résultat? Peut-on y lire une validation ou une exigence accrue envers le pouvoir en place?
Moi, je pense qu'il était attendu que le régime actuel obtenant une majorité, mais pas une majorité aussi écrasante. Je crois que l'opposition, notamment la coalition Samusakadou dirigée par Barthélemy Diaz, et Barthélemy en personne, a tenu des discours qui ont évidemment amené la population sénégalaise à voter massivement pour le parti au pouvoir. Il a plusieurs fois brandit des menaces de bloquer le pays si le président ne nommait pas un premier ministre de l'opposition en cas de majorité à l'Assemblée nationale. Et je crois que cela a amené beaucoup d'électeurs à se dire il faut éviter le blocage, il faut leur donner une majorité qualifiée et il faut faire en sorte qu'ils puissent dérouler l'agenda pour lequel ils ont été élus. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un régime, un président élu n'a eu à gérer le pays avec une Assemblée nationale qui ne soit pas favorable. Donc, il était attendu une victoire, mais pas à l'ampleur avec laquelle les États ont continué à tomber. Et là, on parle carrément d'une majorité qui irait de 125 à 132 députés.
Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International de Sénégal, je vous remercie pour toutes ces précisions.
C'est moi qui vous remercie.
En particulier dans la région de Bandiagara, le maraîchage est une activité dominée par les femmes. Elles cultivent principalement des pommes de terre, des oignons et divers légumes frais. La vente de ces récoltes constitue une source essentielle de revenus, leur offrant une autonomie économique. Certaines femmes investissent ces gains pour couvrir les frais de scolarité de leurs enfants, contribuant ainsi au bien-être familial et à l'éducation de Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Ici à Bandiagara, le maraîchage est un moyen de résilience des femmes. Il est la deuxième activité après l'agriculture traditionnelle.
Je me réveille tous les matins. Après les travaux domestiques, je viens arroser mes parcelles dans le jardin.
Malgré le contexte sécuritaire difficile dans la région de Bandiagara, le maraîchage permet aux femmes d'accéder aux aliments nutritifs produits localement, comme la pomme de terre, la tomate et autres légumes frais. Comme Halima, beaucoup de femmes profitent bien du dynamisme du secteur.
Les légumes que vous voyez, je vais bientôt les vendre pour payer un mouton et faire de l'embauche. Les prix varient de 1000 francs à 1500 francs l'unité. Je revends les moutons à la veille de la fête pour soutenir mon foyer.
Afin de vulgariser le secteur du maraîchage dans la région en proie à l'insécurité, les femmes s'organisent en association et regroupement pour solliciter l'appui technique et financier des partenaires. Très motivée, cette déplacée travaille pour sa réinsertion socio-économique.
Je fuis l'insécurité dans mon village. Ici, je fais le jardinage pour soutenir mon foyer et assurer la scolarité de mes enfants.
Dans certaines localités, la pénurie d'eau affecte la production maraîchère. Assise sur un bassin de retenue d'eau, Ruth raconte les difficultés des femmes.
Nous avons un sérieux problème d'eau dans ce jardin. Le bassin de retenue d'eau est à sec. Sans l'eau, on ne peut pas travailler.
Si le maraîchage représente un atout social et économique pour certaines femmes, d'autres comptent sur l'appui de l'État et des partenaires pour renforcer le secteur. Tidiane Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Merci à Tidiani Ouedraogo pour ce reportage. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza était avec vous au micro. Michel, Claire, Joseph et Trésor Matondo ont assuré la production, la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
Dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.